le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay-Lamarche. Aujourd'hui, 19 mai 2021, eh bien, on se rappelle du 4 mai 1971. Il y a 50 ans, un glissement de terrain majeur de type coulée argileuse entraînait une partie de la municipalité de Saint-Jean-Vianney au Saguenay et causait la fermeture définitive du village. Vous avez peut-être vu dans les dernières semaines des reportages qui commémoraient en fait les 50 ans de cette catastrophe naturelle. À 3600 secondes d'histoire, on a décidé de vous en parler cette semaine en compagnie de l'historien Jean-François Leblanc. Bonsoir.
Bonsoir Alex.
Et je vous présente brièvement notre invité, Jean-François Leblanc, est historien au ministère des Transports. Il y travaille sur l'histoire des catastrophes naturelles au Québec. Titulaire d'une maîtrise en histoire de l'Université Laval, il s'est intéressé à l'histoire du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney avec son équipe. Il a notamment publié un article sur la question dans la revue Saguenayensia et continue à travailler sur l'histoire des catastrophes naturelles. Comme on a pu le voir, comme on pourra le voir en fait dans un quiz qui sera publié dans Le Soleil cet été. Et donc, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour parler de cet événement cette semaine.
Ouais, tout le plaisir pour moi. Merci de m'avoir invité.
Et avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous brosser un bref portrait des lieux? On vient d'évoquer Saint-Jean-Vianney, mais peut-être que pour certains de nos auditeurs qui sont un peu moins familiers avec cet endroit, où est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'endroit est habité depuis longtemps, 1971, lorsqu'arrive cette catastrophe-là?
Eh bien, Saint-Jean-Vianney, c'est un secteur aujourd'hui de la ville de Saguenay, donc dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et la municipalité en elle-même a été colonisée dès le 19e siècle. Mais c'est resté un petit hameau jusque dans les années 1950 où la municipalité a été incorporée. Puis à ce moment-là, il y a vraiment eu un grand développement immobilier. Les taxes étaient peu élevées, les maisons étaient beaucoup moins chères que dans les villes voisines. Donc, il y avait un grand développement immobilier qui se faisait à Saint-Jean-Vianney qui va seulement être freiné par la catastrophe du 4 mai.
Et en 1971, au moment de la catastrophe naturelle, il y a à peu près combien de personnes dans la ville, approximativement?
On parle d'environ 1450 personnes.
Quand même!
Puis il y avait déjà des développements prévus aussi, des rues qui commençaient à être tracées. Donc, on était vraiment dans une municipalité en expansion.
Oui, comme beaucoup de villes au Québec à cette époque-là.
Oui.
Et avant d'aller plus loin et de rentrer en fait dans l'horreur du 4 mai, on s'en va maintenant en musique avec une chanson qui était numéro 1 au Québec dans la première semaine de mai 1971 d'après le palmarès reconstitué de BNQ. Une chanson chantée par Dominique Michel qui s'intitule « Mon homme ».
Et ça s'en va sans vous embrasser. Un homme. Ici Louis-Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez Cheese 94,3 FM.
Toujours sur les ondes de Cheese 94,3, comme vient de nous le rappeler le regretté Louis-Edmond Hamelin, important géographe de l'Université Laval. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire et ce soir, eh bien, on est à Saint-Jean-Vianney, le 4 mai 1971, date d'un important glissement de terrain qui est passé à l'histoire, malheureusement. Et on en parle en compagnie de l'historien Jean-François Leblanc, spécialiste des catastrophes naturelles. Juste avant la pause musicale, M. Leblanc, vous nous parliez de Saint-Jean-Vianney, un village qui est en pleine expansion. Bon, c'est ça, c'est la fin des années 60, début des années 70, comme on l'a vu avec la chanson de Dominique Michel. Bon, c'est des années yéyé, le Québec va bien. Mais le soir du 4 mai 1971, eh bien, tout va basculer à Saint-Jean-Vianney. Quelles sont les premières manifestations du glissement de terrain? Parce que, bon, avant le grand glissement, si je peux m'exprimer ainsi, il y a eu quelques premières manifestations préalables.
Oui, bien, une semaine avant, il y a eu un premier glissement aux alentours du 20-24 avril. Là, c'est pas trop clair quand est-ce que c'est survenu exactement. Et ce premier glissement de terrain-là, il était survenu assez loin du village. Alors, on s'inquiétait pas outre mesure. On pensait que c'était terminé. Mais malheureusement, ce glissement-là va se réactiver dans la nuit du 4 mai, le soir du 4 mai. Et à ce moment-là, les habitants là, vont connaître l'horreur.
Et justement, le fait qu'il y ait un premier glissement quelques semaines, ben, en fait, c'est ça, quelques temps avant, est-ce que c'est quelque chose qui est assez typique quand on parle d'un glissement de terrain, qu'il y a souvent un grand glissement de terrain qui est précédé d'un petit avant?
Pas nécessairement. C'est le genre de choses qui peut arriver. Parce que un premier glissement peut, comme dans le cas de Saint-Jean-Vianney, exposer une zone d'argile encore intacte qui va être sensible. Et à ce moment-là, s'il y a des crues, des eaux ou de l'érosion qui se poursuit, bien, ça peut réactiver le glissement puis le poursuivre. Ou s'il y a des fois, il y a des travaux qui sont faits pour régler un glissement, mais la zone est encore instable, ça peut se réactiver pendant les travaux. Mais ce n'est pas un phénomène courant. En général, les glissements ont tendance à se stabiliser d'eux-mêmes parce que les débris vont s'accumuler au fond du cratère et vont créer une barrière de protection contre la base du talus qui pourrait être encore plus sensible. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans ce cas-ci puisqu'on a eu affaire à un type de glissement plus particulier. On appelle ça une coulée argileuse qui est liée finalement à un type d'argile sensible au remaniement. Une argile qui, une fois qu'il y a eu une première tranche de glissement qui se produit, va se déstabiliser et le sol va devenir liquide. Il va se liquéfier et à ce moment-là, bien, les débris ne restent pas dans la cicatrice, ils sont emportés par l'eau. Et tant qu'il reste la matière sensible, le glissement peut se continuer comme ça et faire ce qu'on appelle un mouvement de rétrogression qui peut être à d'une assez grande ampleur.
Et donc, c'est ce qui va se passer le 4 mai en soirée. Je lisais que, bon, apparemment, les animaux étaient un peu particuliers juste avant le glissement de terrain. Est-ce qu'il y avait d'autres signes que, bon, avec du recul, on est capable de peut-être jumeler à ce glissement-là? Ou...
En dehors des animaux, il n'y avait pas tant de signes d'instabilité. Là, c'est sûr qu'il y a eu cette idée-là que les animaux ne voulaient pas aller dehors. Est-ce que c'est vraiment lié au glissement? On ne sait pas trop. Peut-être qu'eux, ils avaient déjà commencé. Ils ont des sens un peu plus aigus que les humains. Est-ce qu'ils avaient senti certaines vibrations, certains mouvements? C'est difficile à dire parce que une fois que le glissement commence, normalement, c'est assez clair. Et à ce moment-là, le premier signe vraiment que les habitants ont pu ressentir, c'est quand le courant a commencé à manquer dans le village. À ce moment-là, il y avait une partie de hockey du Canadien. C'était la finale de la Coupe Stanley. C'était un match important. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient encore réveillées. Puis en plus, le match était rendu en prolongation. Ce qui a fait que finalement, beaucoup de personnes étaient encore réveillées, n'étaient pas parties se coucher parce que le match était encore en cours et ils n'ont jamais pu finir de l'écouter, ce match-là.
Et donc, le premier signe qu'on a, c'est une coupure de courant. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les premières séquences, en fait, du glissement en tant que tel?
On a quelques témoignages qui nous permettent de reconstituer un peu comment ça s'est passé. Il y a une madame Lise Desmeules, vers 10h30 environ, qui appelle une de ses amies. Puis elle lui explique qu'elle a ressenti une secousse, puis qu'elle voit désormais les lumières de Chicoutimi à partir de sa maison. ce qui était caché à l'avant par une butte de terre, donc un promontoire surélevé. Et donc là, ça nous indique que finalement, le glissement a commencé vers cette heure-là, peut-être un peu avant. Et ensuite, l'autre témoignage qui nous permet de voir la vitesse du glissement, c'est que vers 10h55, il y a un autobus qui revient avec des employés de l'usine de l'Alcan. Mm-hmm. C'est le chiffre de nuit qui fait sa rotation. Et le chauffeur d'autobus doit s'arrêter soudainement au moment où la route s'effondre devant lui. Oh. Il a juste le temps de faire sortir ses passagers par la porte arrière, puis l'autobus tombe. Ces personnes-là vont immédiatement avertir les maisons aux alentours et vont contribuer à sauver de nombreuses vies.
Et justement, bon, on cogne aux portes, on évacue. Est-ce que les gens ont le temps d'évacuer ou déjà, en fait, le sol se dérobe sous leurs pieds?
Un peu des deux. Les maisons les plus proches, bien évidemment, ça va être trop tard pour certaines d'entre elles. Il y en a qui vont avoir le temps de réagir. On a eu le témoignage d'une personne qui a raconté qu'elle était dans la salle de bain puis qu'elle a vu son bain enfoncé. À ce moment-là, elle est allée chercher ses enfants. Elle a essayé de sortir par la porte arrière, mais finalement, elle a vu que son patio n'était plus là. Il n'y avait plus rien dans sa cour. Elle a juste eu le temps de sortir par en avant. Puis dans les cris, la noirceur, c'était de courir et de ne jamais revenir, là, sans savoir qu'est-ce qui se passait complètement. Et de voir là, les voisins qui criaient, qui couraient, là, eux aussi, là.
Parce qu'on a plusieurs témoignages des gens, notamment de leur première réaction. Est-ce que vous avez d'autres témoignages de ces premières réactions et de la manière dont les gens, justement, réagissent au glissement et tentent de s'en sortir?
Oui, il y a plusieurs témoignages qui nous sont parvenus jusqu'à nous. Puis on sait que la réaction a été assez rapide, même au niveau des autorités. Il y a des policiers qui sont mobilisés sur place puis qui essaient de rediriger tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de curieux qui sont venus. Et c'est de ceux-là aussi qu'on va avoir certains témoignages de personnes qui ont su d'amis ou de parenté qu'il se passait quelque chose. Ils voulaient venir voir et ils voulaient aider. Mais il y en a certains qui vont, dans la noirceur, se tromper de chemin et finir dans le cratère. Il y a une voiture que les passagers s'en sortent assez bien avec des blessures mineures, même si il y en a une des passagers, Mme Lisette Lépine, qui doit passer la nuit sur sa voiture, dans une mer de boue, sans trop savoir comment elle va s'en sortir. Elle va être sauvée au matin par un hélicoptère de l'armée. Mais il y a une autre voiture, par contre, qu'on sait qu'ils sont partis d'une ville avoisinante pour venir aider puis qu'ils ne seront jamais revus. On va seulement retrouver les corps quelques mois plus tard.
Quand même terrible et on a parlé en fait d'un hélicoptère de l'armée qui est venu en aide aux gens au matin. Le glissement en fait a eu lieu principalement vers la fin de la soirée. Quand est-ce qu'il s'est terminé et quand il s'est terminé, bon justement, quelle était l'étendue des dégâts?
Eh bien, le glissement s'est terminé la plus grosse partie, on pourrait dire, vers minuit. Ça a duré environ 45 minutes, la phase. Là, il y a eu une première tranche qui s'effondre, ensuite ça déstabilise une autre tranche d'argile qui continue comme ça, jusqu'à une rétrogression finale environ 800 mètres. Et après ça, il va y avoir encore des petits décrochements qui vont se faire dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, mais rien de majeur. Simplement, surtout les quelques maisons qui étaient encore en état précaire sur le bord du gouffre qui vont tomber. Il y a environ, au total, il y a entre 42 à 46 maisons qui vont être emportées par le glissement. Le système d'égouts d'aqueduc que la ville venait de faire agrandir, de tout rénover, va être largement affecté. Les dégâts ne s'arrêtent pas là, parce que ce glissement-là va créer une masse de débris qui va s'accumuler dans la rivière du Petit-Bras et qui va s'écouler le long de ce rivière-là jusque dans la rivière Auvaz et ensuite le Saguenay. C'est une distance d'environ 2,8 km et ça va ravager tous les côtes le long de tout ça. On parle d'une vague d'environ 18 mètres qui va à 26 km/h. Et à l'embouchure de tout ça, il y avait une maison qui était située pas trop loin de ça qui va être fortement abîmée. Et il y avait un pont qui traversait la rivière Auvaz à cet endroit-là qui va être complètement arraché. Et le tablier du pont gît encore aujourd'hui dans le Saguenay.
Quand même, c'est assez violent justement ce que la nature peut être capable de faire. Et comment s'organisent les premiers secours? On a parlé un petit peu des gens qui tentaient de venir en aide de l'armée, mais plus précisément, qu'en est-il?
Mais plus précisément, le lendemain, l'état d'urgence est déclaré. Il y a environ 75 policiers de la SQ qui sont mobilisés, à peu près autant de militaires. La Croix-Rouge est envoyée sur place, des volontaires se mettent en place. On envoie les sinistrés à Kenogami, non loin de là, pour se faire loger puis avoir les soins minimums en attendant qu'ils puissent reprendre, en tout cas, ou savoir qu'est-ce qui va se passer avec leur maison, parce que le village j'ai été évacué presque au complet. Là. Puis les quelques maisons qui ne sont pas évacuées dans les jours d'après vont finalement aussi l'être. Là.
Et combien la tragédie a-t-elle fait de victimes au final?
Au final, on parle de 31 victimes, mais seulement 19 corps ont été retrouvés. Et ça, c'est probablement dû à la forte mobilité des débris, parce qu'il y a un des corps qui a été retrouvé seulement un an plus tard, en juin 72, dans la baie des Chaleurs à Bathurst.
C'est pas à porte d'à côté, là.
Non, effectivement. Donc, probablement que les personnes qui n'ont pas été retrouvées là, ne pourront jamais être retrouvées. Là.
Et les secours, justement, se mobilisent. La SQ également, déclare l'état d'urgence. Quelle couverture en font les médias? Parce que, c'est ça, rapidement, les médias vont être appelés sur les lieux. On a la télévision et, on va être capable d'en avoir une couverture quand même assez précise.
Oui, même que les Radio-Canada va faire des images assez impressionnantes à partir d'un hélicoptère, où ce qu'on voit même encore le lendemain matin, une maison s'effondrer dans le cratère. Puis on voit certaines tranches qui se détachent. Donc, c'est une couverture assez impressionnante, fascinante pour l'époque. Mais comme les connaissances sur ce phénomène-là ne sont pas encore très développées, on ne sait pas vers qui se tourner pour avoir de l'information précise. Et ça fait une masse d'informations sur plein de théories, sur c'est quoi les causes, comment ça s'est passé. Puis ça crée beaucoup de confusion, puis ça finit par contribuer à la panique générale.
Et pour éviter justement la panique générale, rapidement, le gouvernement de Robert Bourassa et son ministre dans la région vont intervenir. Et quel est leur plan de match, justement?
Oui, alors Robert Bourassa se rend sur place en personne pour voir l'état des lieux, puis pouvoir donner la situation, pour gérer la situation le plus efficacement possible. À ce moment-là, on va monter une équipe de scientifiques le plus rapidement possible. Ça va être M. Pierre Larochelle, le professeur Pierre Larochelle de l'Université Laval, ainsi que Jean-Yves Chagnon du ministère des Ressources naturelles, qui vont être en charge de cette équipe scientifique-là, qui va essayer de comprendre la situation. Mais au final, le gouvernement ne va pas prendre de risque et va décider le 27 mai de fermer définitivement le village.
Et quelle est la connaissance qu'on avait à l'époque des glissements de terrain? Cette équipe qui est déployée, les autorités, qu'est-ce qu'ils en savent à l'époque?
Eh bien, les recherches sont... À leur début. On comprend un peu c'est quoi de l'argile sensible. On sait, il y a eu déjà des premiers articles qui ont été publiés justement par Jean-Yves Chagnon sur les argiles sensibles au Québec, où sont situées de manière globale. Mais c'est vraiment encore au début. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, notamment sur les mécanismes qui peuvent enclencher ces glissements-là, puis comment ils peuvent se répandre sur une aussi large étendue. Là.
Et les travaux de cette équipe-là vont s'étendre sur combien de temps? Vont se passer comment?
Les travaux vont durer 2 ans. En 1973, finalement, le rapport va être déposé. On va conclure que l'événement est une catastrophe naturelle causée par l'érosion de la rivière là, à cet endroit-là. Mais ça ne va pas juste être des travaux pour analyser les causes du glissement en lui-même. Sur le coup, on cherche aussi à comprendre, est-ce que le glissement est terminé? Est-ce qu'il peut se réactiver? Parce que là, on voit qu'il y a eu un premier en avril. Là, il y en a un. Est-ce que le glissement pourrait encore continuer? Puis c'est pour ça aussi, ça va propager beaucoup d'inquiétudes pour savoir à quel point les personnes vont pouvoir réintégrer le village. Puis finalement, on va clore le débat en disant qu'ils ne réintégreront pas. Mais donc, il y a ça. Puis ensuite, il va y avoir aussi des travaux de stabilisation qui vont se mettre en place. On va adoucir les pentes, on va canaliser la rivière, on va construire des gabions pour amoindrir l'érosion. On va s'assurer, bref, que l'endroit soit le plus sécuritaire possible.
Et donc, on décide de fermer définitivement le village, mais que fait-on avec les gens qui habitaient Saint-Jean-Vianney?
Eh bien, ces personnes-là, on va décider qu'il va falloir les relocaliser la compagnie Alcan va mettre à disposition des terrains sur le plateau des chaînes à Arvida. À disposition de la relocalisation, on va prendre la décision de déménager les maisons.
Quand même, c'est des travaux importants. C'est sur un sol qui était toujours instable ou qui... C'est...
Non, à partir du moment où le déménagement commence, c'est au mois de septembre. Donc, on a eu le temps de faire des premières analyses, de comprendre là, qu'est-ce qu'il y en est pour ça. Les maisons qui sont trop sur le bord du gouffre ou qui pourraient être dans des endroits un peu plus instables, justement, ne seront pas déménagées. Mais c'est quand même 120 maisons totales là, qui vont être déménagées à peu près et qui vont se faire pendant une opération qui dure 4 mois. Mais ça se passe quand même bien parce que c'est une firme qui a déjà de l'expérience dans le domaine parce que à Asbestos, bon, maintenant Val des Sources, l'agrandissement de la mine avait menacé certaines maisons qui étaient rendues à risque de tomber dans la mine complètement. Et on avait fait le déménagement de ces maisons-là. Alors là, c'est la seule firme qui avait l'expérience. On est en état d'urgence. On est allé les chercher et sont eux qui se sont occupés de faire le déménagement. Donc, ces maisons-là sont réinstallées à Arvida. Et les personnes qui choisissent de ne pas être localisées à cet endroit-là vont obtenir un montant compensatoire qui est équivalent à ce que ça aurait coûté à leur déménagement à cet endroit-là. Mais ils devront se débrouiller s'ils veulent garder leur maison pour eux-mêmes trouver, embaucher quelqu'un qui va la transporter ou s'ils veulent se reconstruire ailleurs. C'est eux-mêmes qui doivent faire l'ensemble des démarches, tandis que les personnes qui vont à Arvida ont plutôt le moment clé en main, là.
Et cet événement-là, justement, comment ça va être vécu par les gens? Parce qu'on parle quand même d'une communauté qui était relativement tissée serrée, qui là, bon, explose un peu avec le glissement de terrain, le déménagement. Est-ce que ça a laissé une trace forte dans la mémoire de ces gens-là? Est-ce que c'était vécu comme un traumatisme?
Oui, décidément, c'est un événement traumatisant. Les survivants en parlent encore aujourd'hui, ont des mémoires très vives de tout ça. Ça a laissé des traces traumatisantes, surtout qu'il n'y a eu aucun suivi psychologique pour ces personnes-là. C'était pas quelque chose qui se faisait à l'époque, malheureusement. On va quand même avoir certaines mesures, on pourrait dire, là, pour aider, parce que quand on va dire, ben, pour ceux-là qui se relocalisent à Arvida, ben, si ton voisin, c'était telle personne, ben, on va te réinstaller à côté de cette personne-là, puis vous allez garder le même voisinage. On va essayer de garder finalement ce tissu social-là qui s'était installé. Mais à travers ça, bien, il y a aussi entre les sinistrés, bon, des conflits. C'est pas tout le monde qui voulait aller à Arvida, même si ça a voté très majoritairement pour cet endroit-là. Bien, il y avait quand même quelques groupes qui préféraient aller à Chipcha ou ailleurs. Et ça va créer des scissions, là, des fois. Là. C'est un événement qui est très difficile à vivre pour ces personnes-là.
Et lorsqu'on va aujourd'hui sur les lieux, eh bien, il n'y a plus du tout de bâtiments. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de détruire les bâtiments restants?
Effectivement, une fois que les maisons sont déménagées, il reste l'église, le presbytère, le centre communautaire, quelques bâtiments finalement qui sont beaucoup trop gros, massifs pour être repris. Mais le gouvernement prend la décision de ne pas laisser de coquilles vides en place parce que, premièrement, on veut éviter le pillage, le vandalisme, mais aussi avec le temps, ces bâtiments-là, si personne s'en occupe, ils vont se désagréger. Ça devient un problème pour la sécurité. On ne veut pas avoir à gérer ça. Donc, on va raser les bâtiments. On va faire la même chose avec les maisons qui sont emportées par le glissement puis qui sont encore semi-intactes. On ne veut pas qu'il y ait de personnes qui décident d'aller fouiller dedans, que ce soit pour le plaisir ou autre, puis que finalement, ça s'effondre sur eux. Donc, on va mettre le feu aux débris. Hein.
Et si je ne m'abuse, on n'a pas seulement démoli les bâtiments. Lorsqu'on regarde des photos actuelles, c'est plat, plat, plat. On a également justement joué dans le territoire. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Puis bon, comment est-ce qu'on l'a fait?
Mais ça, c'est justement les travaux que je mentionnais tantôt. À la suite du glissement, on décide de sécuriser les lieux. Donc, on arrive avec des plans pour aplanir et stabiliser la pente. On veut s'assurer qu'il n'y ait plus de glissement. On veut comprendre les causes. Ça prend des investigations en profondeur aussi. Donc, les scientifiques prennent le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, font les sondages qu'il faut, les procédures d'analyse laboratoire, les études de sol. Donc, ça fait des travaux d'envergure. Et en même temps, bien, ça permet de former la main-d'œuvre, une main-d'œuvre en matière de restauration de talus post-glissement de terrain. On s'assure finalement qu'on comprend comment mitiger ces événements-là, parce que c'était quelque chose qu'il y avait peu. Il y avait pas vraiment d'intervention gouvernementale avant, ou très, très peu. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une équipe qui est créée au sein du gouvernement pour intervenir en cas de glissement de terrain, pour les prévenir. Donc, c'est comme ça qu'on va aussi les former. C'est à peu près 184 travailleurs qui vont être inclus dans ce chantier-là, puis que ça va permettre de lancer la recherche universitaire puis pour mieux comprendre ces phénomènes-là, puis d'avoir finalement une main-d'œuvre formée pour réagir plus efficacement à l'avenir.
Donc, on voit que malgré le côté tragique de l'événement, il y a également des conséquences positives en termes de sécurité publique puis de connaissances sur les glissements de terrain. Outre celles mentionnées, est-ce qu'il y a d'autres conséquences, justement, en matière de sécurité publique ou de connaissances sur les glissements de terrain?
Oui. Il y a les conséquences tristes un peu pour la population qui doit être... Les conséquences humaines sont assez terribles. Là. C'est une communauté qui est détruite. Même si elle a été reformée ailleurs, ça, c'est jamais la même chose. Les personnes sont traumatisées. Ils ont tous perdu des amis ou de la famille. Mais en dehors de tout ça, sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'intervention gouvernementale, c'est le jour et la nuit. Il y a un avant et il y a un après Saint-Jean-Vianney. C'est vraiment à partir de ce moment là que le gouvernement décide de s'impliquer, de créer les ressources qu'il lui faut pour gérer ces aléas-là. Il y a des nouvelles lois qui sont votées, il y a des nouveaux cadres pour la construction du bâtiment, pour le développement immobilier, la société d'hypothèques et de logement est revue en profondeur son fonctionnement, puisque c'est elle qui va s'occuper de gérer le déménagement. Donc, ça brasse beaucoup les cartes au niveau de la sécurité publique, ce qui va faire que le gouvernement, à partir de ce moment-là, va s'impliquer très fortement là-dedans.
Et donc, on s'en va en pause publicitaire, et au retour des pauses publicitaires, eh bien, on va parler plus amplement des causes de ce glissement de terrain.
Vous écoutez Schiste 94.3 FM à Québec. À l'avant-garde!
Chérie J'arrive débarque dans vos oreilles tous les jours de 16h à 17h30 pour vous faire découvrir la scène culturelle et artistique de Québec.
Collabos, chroniques, entrevues, tout ce qu'il te faut pour être à l'affût des nouveautés musicales, théâtrales, littéraires, dansées, exposées. Vous voyez ce qu'on veut dire, là? Chérie J'arrive par Gabriel Morissette
et Félix Duchesne en semaine dès 16h à Chérie 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Hey les gars, j'ai assez hâte au jour de l'an, là.
Hey, je pensais pas qu'un canot pouvait voler.
N'oubliez pas qu'il faut pas sacrer, là.
Quand je pogne plus 3600 secondes d'histoire. Oh non!
Toujours sur les ondes de Cheese 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire, comme viennent de nous le rappeler les gars de la Chasse-Galerie. Ce soir, on parle du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney à l'occasion de son 50e anniversaire. On est en compagnie de l'historien Jean-François Leblanc, spécialiste de l'histoire des catastrophes naturelles. Juste avant la pause publicitaire, on parlait de la séquence des événements de ce glissement de terrain justement qui est survenu le 4 mai 1961, puis de l'évacuation des lieux. On s'est penché un petit peu sur les causes du déglissement, mais maintenant, creusons davantage, sur cette question-là. Mais avant, justement, de rentrer dans les causes, parlons un petit peu plus du contexte géologique de l'endroit. On a parlé d'argile, mais encore, qu'en est-il? Parlez-nous plus amplement, de ce contexte géologique. Qu'est-ce qui explique qu'on a pu avoir un glissement là, mais qu'on pourrait peut-être pas en avoir, par exemple, sur le Cap Diamant à Québec?
Oui, alors c'est vraiment une question de sol. Les argiles du Québec sont particulières. Ce sont des argiles qui sont dites sensibles au remaniement. Donc, des argiles qui ont été affectées par la dernière glaciation il y a 12 000 ans. Le Québec était recouvert de glace et au moment où ces glaciers-là commencent à fondre, à se retirer, ça crée des mers intérieures. Donc, dans les basses terres du Saint-Laurent, il y a la mer de Champlain et dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a la mer de La Flamme. Et une fois que l'eau va se retirer, cette eau-là, avant même qu'elle se retire, il y a des dépôts meubles qui vont s'accumuler, qui vont créer des couches au fond de ces océans-là. C'est ça, c'est des dépôts d'argile-là qui se créent. Et une fois que les mers se retirent, elles vont lessiver l'argile du sel qu'elle contient. Et au niveau moléculaire, c'est le sel qui assure la stabilité de l'argile. Ce qui fait qu'on pourrait, même de l'argile sensible, on peut construire dessus, c'est très solide. Mais s'il y a une grande restructuration qui se crée, comme dans les cas d'un glissement de terrain, eh bien, l'argile devient complètement de l'eau. Ça se liquéfie et à ce moment-là, bien, il n'y a plus rien qui tient. Puis c'est ce qui fait qu'au Québec, on peut avoir des glissements de terrain d'une assez grande envergure et que ça peut être assez compliqué d'évaluer là, ce phénomène-là.
Parce que ce n'est pas un contexte spécifique au Saguenay, Lac-Saint-Jean, c'est quelque chose qu'on retrouve également ailleurs.
Effectivement. Comme les mers étaient toute la section de la vallée Laurentienne jusque au Lac-Saint-Jean, bien, en fait, les dépôts meubles sont faits là. Puis si on constate l'évolution du peuplement québécois, bien, la majorité des personnes se sont installées donc dans des zones qui peuvent être potentiellement à risque. Ce ne sont pas tous les endroits à l'intérieur de ça qui ont des argiles sensibles, mais c'est des zones où il peut en avoir.
Et au Québec, justement, qu'on pense au glissement de terrain, on pense principalement à celui-là en raison, bon, de son importance quand même, c'est ça, j'aurais envie de dire inégalée, mais bon, ça, c'est un autre mythe qu'on pourra voir. Mais c'est ça, est-ce que c'est quelque chose d'assez courant dans l'histoire du Québec lorsqu'on regarde dans les derniers siècles ou c'est quelque chose d'assez isolé, des glissements de terrain?
En fait, des glissements de terrain, il y en a à chaque année au Québec, même il y en a plusieurs centaines à chaque année.
OK. La
seule chose, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des glissements de très faible envergure et donc qui ont peu de conséquences. Ça arrive souvent aussi, beaucoup plus souvent en zone rurale, en zone agricole. Donc, ça, en général, on n'entend pas parler à cause de ça. Mais il y a certains glissements qu'on appelle les glissements fortement rétrogressifs parce qu'ils vont avoir un fort recul du talus par rapport à la berge du cours d'eau. Eh bien, comme dans le cas de Saint-Jean-Vianney, ce sont des glissements qu'on dit qu'ils font plus d'un hectare de superficie. Mais ces glissements-là surviennent environ une fois à tous les deux ans.
Oui, c'est quand même assez courant. Et on parlait en fait de l'ampleur de la tragédie. Pour certaines personnes, bon, c'est le plus grand glissement de terrain qu'on ait connu parce que, bon, il a pu être transmis par Radio-Canada, on a pu le documenter énormément. Mais est-ce que c'est le plus grand glissement de terrain connu de l'histoire du Québec, à votre connaissance?
Non. En fait, historiquement, le plus grand glissement est le glissement de Saint-Alban qui est survenu en 1894. Ce glissement-là faisait une superficie de, si je me rappelle bien, 473 hectares. Et ce n'est même pas le plus grand glissement de terrain qu'on a eu au Québec parce que aujourd'hui, avec les données numériques, on est capable de faire des reconstitutions de terrain qu'on appelle du LIDAR. Et ça nous permet vraiment de discerner la topographie mise à nu, comme s'il n'y avait pas d'arbres, pas de construction. Puis on peut vraiment voir la formation dans le sol. Donc, on peut repérer les anciennes traces de glissement de terrain qui ont eu lieu avant le peuplement européen. Et on est capable de voir qu'il y en a qui sont encore plus grandes, dont sur le site de Saint-Jean-Vianney.
Ah ouais, c'était en fait, pas le premier?
C'est ça qui est surprenant, c'est que c'était pas le premier et qu'en fait, Saint-Jean-Vianney a été construit dans les débris d'un glissement 45 fois plus gros. Et Saint-Jean-Vianney, c'est 32 hectares. Et là, on parle peut-être de 1400 quelques hectares. Donc, un glissement énorme qui aurait possiblement été déclenché en 1663 par un séisme de magnitude 7 en épicentre dans Charlevoix. Et donc, ce glissement-là, qui a remanié considérablement la région du Saguenay, aurait eu des argiles qui ont glissé sans être maniées, un morceau intact qui aurait été prendre à Saint-Jean-Vianney et qui aurait des débris qui se seraient accumulés autour. Et c'est ce qui fait que la géologie à Saint-Jean-Vianney est si particulière parce qu'on se ramasse finalement, au lieu d'avoir des couches de dépôts de sol accumulées les unes sur les autres, eh bien, elles sont déjà un peu mélangées. Il y a des poches de sable qui peuvent se ramasser à travers l'argile et c'est ce qui a fait que finalement, l'îlot était plutôt protégé par cette masse de débris-là. Puis le premier glissement du mois d'avril est venu exposer une couche d'argile sensible qui était auparavant cachée. Puis là, quand il y a eu la crue des eaux, c'est venu aller éroder ça, puis c'est là que ça s'est déclenché. Puis là, on sait maintenant que ce glissement-là, en fait, était rendu stable une fois qu'il s'est arrêté parce qu'il y avait des poches de sable qui étaient rendues là. Donc, il n'y avait plus d'argile, il n'y avait plus de matériaux sensibles qui pouvaient donc continuer pour continuer le glissement. Donc, c'est pour ça qu'il s'est arrêté à cet endroit-là.
Et vous avez évoqué justement bon, la crue des eaux. Quelle est l'importance justement des conditions météorologiques dans un glissement de terrain et dans le cas de Saint-Jean-Vianney?
Mais c'est toujours un facteur prédéterminant. C'est tout le temps le niveau d'eau dans les sols qui va venir influencer la possibilité d'un glissement de terrain. Et c'est pour ça que ça arrive le plus souvent, soit au printemps, soit à l'automne. Et dans ce cas-ci, c'est très particulier parce qu'en fait, on a eu énormément d'accumulation de neige à l'hiver 71, même qu'il y a eu la tempête du siècle, là, c'est pendant cet hiver-là. Et au printemps, tout ça fond très rapidement. Et en plus, on a un printemps très pluvieux, ce qui fait que, en fait, au début mai, il n'y a plus de neige, mais l'eau est très, très forte dans les cours d'eau et le courant va venir éroder très fortement.
Il y a certaines personnes qui ont évoqué le barrage sur la Chipcha. Il y avait un barrage sur la Chipcha et que ça aurait pu contribuer au glissement de terrain. Est-ce que c'est exact?
Mais effectivement, il y a plusieurs causes qui sont venues dans un premier temps, puis on cherchait beaucoup. Donc, il y en a que... on cherchait un coupable. T'sais? Donc, on se disait, bien, à proximité, ça pourrait être un barrage. Il y en a qui ont parlé d'un tremblement de terre, mais là, bon, comme les sismographes n'avaient rien détecté, ça a été facilement démenti. Pour le barrage, c'est plus compliqué. On va essayer de faire... on va faire des analyses et les experts vont conclure que ça n'en est rien, parce que c'est pas le même cours d'eau et la manière qu'il affecte le réseau hydrographique n'aurait pas eu un rôle ici là, dans le glissement de terrain.
Et certaines personnes parlent de la présence d'une rivière souterraine. Est-ce que c'est exact?
Ça, c'est vraiment le mythe le plus persistant par rapport à ce glissement-là. C'est vraiment venu du fait que quand on voit les images du glissement, on voit que tout ce qui reste, c'est un cratère avec de l'eau qui coule au milieu, sans aucun morceau de terre, sans aucun... quelques débris de maison, tout est ravagé, mais on ne comprend pas où tout ce matériel-là est passé. Mais en fait, si on revient à l'explication que j'ai donnée sur les argiles sensibles, c'est que cette terre-là s'est liquéfiée au fur et à mesure que le glissement progressait. Et donc, elle n'était pas assez solide pour rester à l'intérieur du cratère et elle a été évacuée jusque dans le Saguenay et plus loin. Là, les débris se sont ramassés sur des kilomètres.
Et certaines personnes ont dit que le gouvernement aurait dû être au courant et qu'il aurait pu éviter la tragédie. Est-ce qu'avec les connaissances qu'on avait à l'époque, c'est possible d'affirmer ça?
Eh bien, plus ou moins. Parce qu'effectivement, il y avait eu le premier glissement. Donc, certaines personnes qui disent si le gouvernement était intervenu à ce moment-là, on aurait tout réglé et il n'y aurait jamais eu de catastrophe. Mais le fait est que le gouvernement n'était pas au courant qu'il y avait eu un glissement à ce moment-là, au mois d'avril. Le propriétaire de la terre, M. Peter Blackburn, avait fait venir l'évaluateur municipal, mais simplement pour évaluer les pertes. Pour lui, c'était une perte financière par rapport à ce qu'il allait pouvoir cultiver, par rapport à ce qu'il avait comme terrain, mais personne ne s'imaginait que ça pouvait poursuivre. Donc déjà là, il n'y a pas eu de géologues, il n'y a pas eu d'experts qui sont venus voir le glissement. Mais ensuite, même s'il était venu sur le terrain, ça aurait été très difficile parce qu'à l'époque, on ne peut pas... on ne perçoit pas que les glissements, on ne comprend pas tous les mécanismes, mais on se dit qu'un premier glissement, il ne peut pas avoir un deuxième glissement à l'intérieur d'une cicatrice d'un autre glissement. Donc là, on se dit, bien là, Saint-Jean-Vianney est situé déjà à l'intérieur d'un glissement beaucoup plus grand. Mm-hmm. Donc, ce sol-là a déjà été remanié, donc l'argile n'est plus supposée être sensible. Puis c'est pour ça que ça l'a vraiment surpris beaucoup quand ils ont fait leur recherche de voir que finalement, il restait encore une plaque d'argile intacte qui avait été déplacée mais qui n'avait pas été remaniée et qui est celle qui s'est écoulée là. Donc maintenant, on est beaucoup plus sensible à ce type de glissement-là. On comprend mieux comment ça peut se déclencher. Et s'il y a un glissement d'envergure, il y a tout le temps des experts qui vont se déplacer et qui vont s'assurer de la stabilité ou au moins d'évacuer les personnes autour, là.
Et dans les autres mythes qui circulent autour du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney, on l'évoque parfois comme le glissement de terrain ayant fait le plus de victimes dans l'histoire du Québec. On parle de 31 victimes. Est-ce que c'est le cas?
Pas tout à fait. En fait, c'est le deuxième glissement de terrain qui a fait le plus de victimes. Il y en a un autre en 1908 à Notre-Dame-de-la-Salette qui aurait fait 34 victimes. C'est celui-là, donc, le plus mortel. Et en dehors de ça, si on élargit un peu au niveau des catastrophes naturelles, on a deux autres catastrophes naturelles qui ont fait plus de morts au Québec, même à Québec. Il y a eu deux éboulements rocheux majeurs en 1841 et 1889 qui ont fait respectivement 32 et 45 morts.
Ouais, le Cap Diamant qui s'était détaché pour aller s'écraser sur les maisons du Petit Champlain.
Hein. Exactement. Donc, c'est pas les mêmes problèmes que l'argile, mais ça peut aussi être problématique.
Effectivement. Et sur ça, on s'en va en musique avec la chanson « Mon village » de Paul Davis, premier chanteur populaire natif du Saguenay, le Bé-Riverain. Paul Davis, né Paul Gagnon, a connu une carrière importante dans les années 1950. Grandement inspiré par son milieu, l'auteur, compositeur, interprète a été un des premiers artistes à chanter le Saguenay, la beauté de son territoire. Et donc, sa chanson « Mon village » demeure un des succès incontestables de l'industrie du micro-sillon de l'époque des années 1950 et continuait à être écouté dans les années 1970. Et donc, on s'en va avec « Mon village » de Paul Davis.
Sur les bords de la rivière Saguenay, il est beau mon village, et malgré tous mes voyages, je ne l'ai jamais oublié. Je me souviens, on chantait, on criait, on courait sur la grève. Ce que j'en ai fait de beaux rêves qui ne reviendront plus jamais. Il est si beau mon village, se mirant dans la baie. Est-il toujours aussi sage? Moi, tu sais, j'ai changé. C'est le miroir de mon enfance, de mes jeunes années. Avec un peu de chance, un jour je reviendrai sur les bords de la rivière Saguenay. Je rêvais d'aventure. Quand j'ai sauté la clôture, je crois bien que j'ai pleuré. Dans la vie j'ai plongé, j'ai mordu. J'ai connu bien des roses qui se fanait à peine éclose. J'en ai tant vu. Il est si beau mon village, se mirant dans la baie. Est-il toujours aussi sage? Moi tu sais, j'ai changé. C'est le miroir de mon enfance, de mes jeunes années. Avec un peu de chance, un jour je reviendrai sur les bords de la rivière Saguenay. Je revois les montagnes, ce qu'elle est jolie la campagne. La campagne où je suis né, elle est là, toujours là. Ma maison, ce qu'elle est belle. Je veux mourir avec elle, mourir avec ma chanson. Il est si beau mon village, il aura toujours 20 ans. S'envoleront les nuages, emporté par les vents. J'ai tant besoin de sa présence, j'ai besoin d'oublier. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'aimerais aimer.
Terre en vue, capitaine Cartier.
Ha! Quoi demander de mieux? Le cap brille de 1000 diamants. Il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire.
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, comme vient de nous le rappeler nul autre que Jacques Cartier. Vous écoutez, c'est ça, Chiz 94.3, pardon. Et ce soir, on parle du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney à l'occasion de son 50e anniversaire, le 4 mai dernier. On commémorait le 50e anniversaire de ce glissement de terrain, ayant fait 31 victimes ayant causé la fermeture du village. Je suis en compagnie de l'historien Jean-François Leblanc, spécialiste de la question, vraiment au ministère des Transports. Et donc, on a parlé un petit peu des causes de l'événement. Maintenant, si on va plus du côté de sa mémoire, du côté de ce qui en reste, que reste-t-il 50 ans plus tard à Saint-Jean-Vianney et de Saint-Jean-Vianney?
Bien, sur place, il reste vraiment peu de choses. On a déjà parlé à quel point là, la cicatrice en elle-même a été effacée là, par les travaux qui ont suivi. Mais en plus, là, maintenant que la végétation a repoussé, là, vraiment, c'est très difficile de discerner la moindre trace. Pour ce qui est des bâtiments, bon, ça a été déménagé, détruit. Donc, ce qui reste, c'est les fondations de certains bâtiments. L'endroit le plus reconnaissable, c'est les marches de l'église qui sont encore présentes. C'est à peu près le seul vestige là, vraiment concret. Là, qui reste en ce moment.
C'est devenu un lieu de mémoire, si je ne m'abuse, ces marches-là.
Oui, il y a eu beaucoup de commémorations qui se sont faites au fil des temps, là, au fil du temps, à chaque anniversaire qui s'est fait. Mais c'est seulement cette année qu'il y a vraiment eu un effort mémoriel plus grand, où on a décidé de faire un monument sur le site et de créer des sentiers pédestres autour. Ces sentiers-là, éventuellement, vont être accompagnés de panneaux explicatifs, de points de vue, donc d'images qui vont permettre de faire revivre là, la mémoire du secteur là, de Saint-Jean-Vianney.
Et dans la mémoire collective, que reste-t-il de Saint-Jean-Vianney?
Mais Saint-Jean-Vianney est souvent reconnu comme le gros glissement du Québec. Là, il a effacé tous les autres. Là, pourtant, il y en a eu plusieurs majeurs avant, comme à Saint-Joachim-de-Tourelle en 1963 ou à Nicolet en 1955, où c'est carrément le centre-ville de Nicolet qui avait été...
La cathédrale, il y avait goûté.
Exactement, la cathédrale y avait échappé de peu, mais elle était obligée d'être démolie et reconstruite plus loin à cause de tout ça. Et c'est le presbytère là, qui s'était effondré à moitié. Là. Donc, on a vraiment plusieurs gros glissements comme ça dans l'histoire, mais c'est vraiment Saint-Jean-Vianney qu'on retient parce que c'est celui où il y a eu la plus grande intervention, puis c'est celui qui a changé les choses après ça. On a mieux compris ces phénomènes-là. On a commencé à faire des recherches, on a commencé à intervenir plus systématiquement. Dans l'année qui suivent, là, Jean-Yves Chagnon disait qu'il y avait plus de 400 demandes qui avaient été déposées pour l'analyse de sol, des glissements de terrain. Donc, il y avait une grande conscientisation qui a été fait. Moi, j'ai même un collègue au ministère des Transports qui me dit que son choix de carrière s'est déterminé en fonction de tout ça, que c'est vraiment Saint-Jean-Vianney qui lui avait fait dire, moi, je vais devenir géologue, je vais aller comprendre c'est quoi que c'est passé.
Et peut-être aussi l'impact de la télévision, les glissements de terrain précédents n'ayant probablement pas eu la même couverture télévisuelle.
Effectivement, probablement qu'il y avait moins de télé, quoique pour Nicolet, on a des images filmées, mais la couverture médiatique n'a pas dû être aussi intense et aussi constante pendant aussi longtemps. Hein.
Et chez ceux qui ont vécu l'événement, parce que bon, on parle de 50 ans, c'est quand même hier dans l'histoire du Québec, qu'est-ce qui en reste comme trace?
Mais il en reste des traces très douloureuses pour la plupart, mais aussi nostalgiques. Là. Il y a des groupes qui se sont créés. Ces personnes-là restent beaucoup en contact, retournent régulièrement sur les lieux, sont là pour les cérémonies de commémoration. Ça reste donc très, très présent dans leur vie. Là. Mais je suppose qu'il y en a aussi qui ont décidé, qui coupaient tout et qui ne voulaient plus repenser cet événement traumatisant-là. Hein.
Et outre, effectivement, bon, la revue Saguenay-Yensa qu'on consacrait à la question, le monument dont vous avez parlé, quels sont bon, les événements et bon, les façons dont on a commémoré Saint-Jean-Vianney depuis les 50 dernières années?
Ben, il y a eu un petit monument qui a été érigé dans les années 70. Sinon, il y a eu des réunions qui se sont faites là, à tous les X années, mais il y a pas eu grand-chose avant cette année-là. Mais là, le territoire était un peu laissé à l'abandon, et au point où il se faisait des activités plus ou moins légales, là, entre autres des rassemblements de Monster Truck. Puis de...
Ah ouais?
C'était bien. Ils appelaient ça un trou de bouette. Là, donc, ça faisait des fêtes sans permis. Tout à fait, là, mais finalement, ça s'est régularisé avec le temps, mais ça reste que pour beaucoup de victimes, c'est un manque de respect d'utiliser un site aussi dramatique pour des activités aussi festives. Donc là, il y a vraiment un désir de récupérer le contrôle sur le site, d'en faire un lieu commémoratif intégral, et même, il y a un projet pour déposer la candidature de Saint-Jean-Vianney comme géoparc à l'UNESCO. Donc, j'espère vraiment que ça va se faire. Et aussi, cette année, le ministère de la Culture a reconnu officiellement Saint-Jean-Vianney comme un événement historique qui a marqué le Québec. Donc c'est vraiment cette année, après 50 ans, que l'ensemble de la commémoration se met en place. Il y a eu quelques projets qui s'étaient faits immédiatement après le glissement, on parlait déjà d'en faire un site touristique, mais ça paraissait peut-être un peu trop mercantile déjà de mettre en place il y avait un projet de faire un documentaire aussi. Ça a été fait, mais le vidéo est difficile à trouver de nos jours. Donc, finalement, l'événement est comme resté en latence jusqu'à cette année. Donc, c'est une bonne chose que finalement, ce secteur mémorial-là se mette en branle. Là.
Puis je pense que le lieu de mémoire est peut-être plus à propos que le site touristique.
Effectivement, mais je pense que ils disaient site touristique dans le sens de lieu de mémoriel avec un musée, tout ça, mais il y avait aussi des considérations économiques qui étaient direct mentionnées à travers ça, là, où est-ce que ça, ils voyaient l'afflux de visiteurs puis l'argent que ça pouvait ramener à la région. Fait que c'était un peu bizarre, puis c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été de l'avant.
Ouais. Et aujourd'hui, vous avez été capable de nous parler de cet événement, grâce aux connaissances que vous avez développées sur l'histoire des catastrophes naturelles au Québec. Lorsqu'on étudie à l'université en histoire ou même lorsqu'on regarde les manuels, c'est quelque chose qu'on voit peu, l'histoire des catastrophes naturelles. Est-ce que c'est quelque chose de relativement récent, l'intérêt, en fait, pour l'histoire des catastrophes naturelles?
Oui, en tout cas, chez les historiens, parce que chez les géologues, il y a quand même toujours eu un certain intérêt. Il y a eu des études qui se sont faites, mais eux s'intéressent beaucoup aux mécanismes de rupture, aux conséquences géologiques, comment ça s'est produit. Mais sur le plan humain, politique, les conséquences de ces événements-là, il y a encore très peu de personnes qui se sont attardées à ça. En général, ça se fait un peu dans les inondations, mais dans les autres catastrophes, on n'en entend pas parler. C'est un champ d'études qui se développe avec les études sur les changements climatiques. Donc, mettez déjà là, les études sur les changements climatiques sont très, très peu développées encore. Et souvent, on hésite à remonter plus loin que 50 ans. Donc, on prend les 50 dernières années, on essaye d'inférer des études sur les changements climatiques à travers ça, mais ça ne permet pas de voir vraiment les changements majeurs qui se sont produits, de voir les cycles météorologiques sur le long terme. Donc, il faut vraiment remonter plus loin dans le passé pour mieux comprendre ces phénomènes-là. Puis c'est ce qu'on essaie de faire avec notre projet au ministère.
Et justement, ce projet-là, brièvement, consiste en quoi?
Eh bien, le projet d'historique des catastrophes naturelles vise à recenser un maximum d'informations sur les catastrophes naturelles. Donc, on veut tout centraliser, cette information-là. Puis ensuite, on veut essayer de localiser un maximum d'événements pour pouvoir mieux évaluer les risques de glissement. Donc, on va essayer de mieux cibler les zones à risque. Et après ça, si des municipalités ont besoin de faire du développement immobilier dans un certain secteur de leur ville, puis qui ne sont pas trop sûrs, mais là, si on leur dit, bon, il y a déjà eu un glissement à tel endroit, en telle année, puis un autre à telle année, là, ils peuvent évaluer plus facilement les risques si on fait juste leur dire, non, parce qu'il y a un peu d'argile sensible. T'sais. Donc, si on a une date, un événement, les dégâts que ça le fait, c'est plus facile à mesurer puis à comprendre. Puis à travers ça, bien, pour nos experts à l'interne, l'information qu'on recueille, c'est aussi une manière de mieux comprendre ces phénomènes-là parce qu'on a des témoignages très précieux du passé qui sont transmis à travers ça.
Effectivement, et ce sera à suivre. Pour l'heure, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Un grand merci, Jean-François Leblanc.
Merci à toi.
Et donc, on invite les auditeurs qui voudront en savoir plus à se procurer le dernier numéro de la revue Saguenay-Yensia, qui est consacré à cette question et qui revient effectivement à la fois sur l'histoire de Saint-Jean-Vianney et sur l'histoire de la catastrophe qui s'y est produite. Pour l'heure, eh bien, on se quitte avec une chanson composée en 1971 à la mémoire de cette catastrophe, une chanson intitulée Saint-Jean-Vianney, chantée par Danny Bolduc. Et donc, sur ce, on se laisse à la semaine prochaine et on vous souhaite une excellente fin de soirée.
Chante, c'est pour toi, repose en paix, toujours on t'aimera. Un petit village comme tant d'autres que Mère Nature avait choisi. Ironie de cette affreuse chose. Si tu n'es plus, ton souvenir sera Saint-Jean-Vianney, que chante c'est pour toi. Repose en paix, toujours on t'aimera. On ne t'oubliera pas, si tu n'es plus, ton souvenir sera Saint-Jean-Vianney.
Le meilleur flow
à Chiz 94.3 le lundi à 20h30.
Lundi 20h30
avec votre animateur Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Voyons, comment ça, ça marche pas? Hey, Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain.
Cain? Hey boy, on est loin d'embarquer ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi, cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
J'ai envie de voir un peu de ciel bleu et la lune le soir au fond de tes yeux. Laissez loin la ville avec ses fumées. Et ensoleillé. J'aimerais écouter des chants d'Anolis et voir s'envoler des lucioles la nuit, de lire des poèmes avec des grands airs. Je t'aime au vent de la mer.